Deutsche Welle. Droits et libertés.
Ils pourront couper toutes les fleurs, ils n'empêcheront jamais le printemps. L'auteur de ce vers s'appelle Pablo Neruda, né en 1904 au Chili. C'est au Chili aussi qu'il meurt en 1973, le 23 septembre, quelques jours seulement après le putsch d'Augusto Pinochet. Les circonstances de la mort du poète prix Nobel de littérature sont demeurées mystérieuses jusqu'à ce jour. Des analyses génétiques sont en cours pour déterminer s'il a été peut-être empoisonné par la junte militaire. Pablo Neruda, poète, diplomate, résistant et communiste, c'est de lui dont nous parlons cette semaine. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Buenos días, me llamo Pablo Neruda, soy poeta.
Un poète. Et pour évoquer la mémoire et l'œuvre de Pablo Neruda, je me suis entretenue avec Franck Godichaud, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'université de Grenoble en France. Je lui ai demandé pour commencer ce que représentait aujourd'hui encore Pablo Neruda.
C'est le poète le plus connu du Chili, mais l'un des plus connus de l'Amérique latine, du fait qu'il a été prix Nobel de littérature. Et c'est aussi une figure politique importante, puisqu'il était militant du Parti communiste et un soutien indéfectible du président Allende.
Alors, il a eu une activité diplomatique, en effet, dès les années 30. Lui, il est né en 1904 et il s'est retrouvé en Espagne au moment de la guerre d'Espagne. Est-ce que c'est un événement qui l'a particulièrement frappé et qui a influé sur le restant de son œuvre et de sa pensée?
Ah oui, donc vraiment la guerre d'Espagne, pour lui, c'est un moment fondateur qui en plus accélère son engagement politique. Il a écrit sur cette guerre d'Espagne, l'ouvrage « Espagne au cœur », et il a été très impliqué aux côtés des républicains et ensuite contre la dictature de Franco. Par exemple, rappelons le Winnipeg 1939, donc où le consul Neruda organise un grand bateau pour évacuer des républicains, en grande partie d'ailleurs communistes, vers le Chili, qui seront ensuite accueillis au Chili, grâce donc à Neruda qui a affrété ce bateau, qui a fait toute une entreprise pour les sauver. Et ensuite, durant les années suivantes, il a été vraiment aux côtés des républicains contre Franco.
Donc Franco qui, à l'époque, était soutenu par l'Allemagne nazie.
Exactement, oui. Qui explique aussi que dans les années 40, il adhère officiellement au Parti communiste, et qu'en 1945, il est élu sénateur du Parti communiste.
Et est-ce qu'on lui a pas reproché un petit peu après aussi de rester malgré tout, bien qu'ayant vu sur place l'Union soviétique et les affres du stalinisme, de rester fidèle au système stalinien?
Si, tout à fait. C'est un des points d'ailleurs polémiques de l'engagement de la biographie de Neruda. Il a été ouvertement stalinien. Il a même écrit une ode à Staline, un poème qui s'appelle Ode à Staline. Il a reçu le prix de la paix Staline en URSS. Donc il était vraiment, disons, très aligné avec Moscou et surtout un fidèle du Parti communiste chilien, qui est un des plus orthodoxes de l'Amérique latine. D'ailleurs, Neruda était quelqu'un de très important dans les associations des écrivains communistes au niveau mondial. Il a présidé des associations, il était très actif pour organiser, disons, tous les écrivains qui étaient philo-communistes ou, disons, défendant l'URSS de cette époque.
Pablo Neruda écrit aussi un recueil de 231 poèmes qui compte plus de 15 000 vers. Le chant général reste son œuvre majeure. Il y chante l'universalisme et la beauté de la nature dans l'Amérique du Sud précoloniale. Ici, un extrait des Ennemis.
La terre paraissait s'enfoncer. Au nom de ces morts, nos morts, je demande un châtiment pour ceux qui éclaboussèrent la patrie de sang. Je demande un châtiment pour le bourreau qui commanda cette fusillade. Je demande un châtiment.
Il est mort il y a maintenant plus de 40 ans, en 73, quelques jours seulement après le putsch de Pinochet. Et les circonstances de sa mort sont encore mystérieuses. Comment ça se fait qu'on se pose encore la question des circonstances de la mort de Neruda, qui officiellement est décédé d'un cancer de la prostate?
Mais disons que entoure sa mort vraiment de nombreux doutes. S'il est vraiment mort de ce cancer de la prostate le 23 septembre 73, ou s'il a été assassiné par la dictature. Il y a une enquête qui est en cours, une nouvelle enquête qui est en cours, qui est dirigée par le juge Mario Carosa. Il y a de fortes présomptions d'assassinat. Il y a même un document interne de l'Institut des droits de l'homme du ministère de l'Intérieur qui parle de fortes présomptions, puisque le jour de sa mort, il a reçu une injection le matin, et peu d'heures ensuite, il est décédé.
Et on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette seringue.
Alors, on ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette seringue. On parle désormais de staphylocoque doré, mais qui aurait pu être altéré. Et il faut quand même rappeler que dans cette même clinique, quelques années plus tard, a été assassiné et empoisonné un des ex-présidents du Chili. Et donc, ça renforce encore la présomption d'assassinat.
Alors, on peut utiliser cette occasion pour parler un petit peu de la dictature d'Augusto Pinochet qui va se poursuivre. Donc, elle commence en 1973, elle se poursuit jusqu'en 1990. Et Pablo Neruda, s'il a été assassiné par les services de Pinochet, ne serait pas la seule victime du régime. C'est des milliers de morts.
Oui, c'est une dictature vraiment criminelle. On est face à un terrorisme d'État. Officiellement, il y a plus de 3200 victimes et plus de 38 000 personnes torturées. Les historiens disent que c'est en vérité plus que ça. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les premières funérailles, puisqu'il y en a eu plusieurs, de Neruda en septembre 1973, c'est d'une certaine manière la première manifestation public d'opposition à la dictature.
Durant ses funérailles, les gens scandent le nom de Pablo Neruda, ils chantent des chants révolutionnaires comme l'Internationale. Ils sont ouvertement hostiles à Pinochet, qui réprime dans le sang tous ceux qui se réclament du marxisme, du communisme, ainsi que les mouvements syndicaux. Mais la résistance contre la dictature continue et des mouvements sociaux vont contraindre Pinochet à organiser un référendum en 1988, qu'il perdra d'ailleurs. Le dictateur devra alors organiser la transition.
Voilà, une transition qui se fait malgré tout de manière très contrôlée par les militaires. Ça explique un peu ce qu'est aujourd'hui le Chili actuel. Rappelons par exemple que la constitution de Pinochet de 80 est toujours en place dans le Chili dit démocratique actuel.
Là, il y a une plainte qui avait été déposée pour génocide, terrorisme et torture contre Augusto Pinochet. Il sera d'ailleurs arrêté en 98, emprisonné, mais libéré pour raison de santé 2 ans plus tard. Il avait 85 ans et il peut rentrer au Chili. On se souvient de cette image de lui qui part d'Europe affaibli en fauteuil roulant et puis qui arrive au Chili et qui tout à coup peut se relever sur le tarmac.
Voilà, ça, cette image, elle résume un peu ce que le premier président élu avait appelé la justice dans la mesure du possible. Et en fait, cette mesure du possible fait qu'il y a encore beaucoup d'impunité. Elle explique que Pinochet a été maintenu sénateur à vie, commandant en chef des forces armées jusqu'à 1998, et qu'il soit mort même en 2006 dans son lit sans jamais avoir été condamné. Pinochet avait un procès en cours, mais il est mort avant d'avoir été condamné.
De quel soutien a bénéficié Augusto Pinochet lorsqu'il était au pouvoir, à l'instar des autres grands dictateurs d'Amérique latine ?
Si on parle de soutien internationaux, là c'est évident, les États-Unis, notamment le gouvernement Nixon et les gouvernements successifs ont été un appui fondamental pour la dictature. Et au niveau interne, il y a tout un secteur de la société chilienne, ce qu'on pourrait appeler l'oligarchie, pour aller vite, qui a eu tellement peur durant les années 70 avec l'unité populaire, la voix chilienne au socialisme, qu'ils ont appuyé cette répression et qu'ils ont, soutenu toutes les atteintes aux droits de l'homme.
Parce que donc, cette ère de la dictature, elle a rangé, entre guillemets, pour deux raisons. D'abord politique, parce qu'elle était un barrage efficace contre toute velléité socialiste ou communiste. Au moment même où il y avait un essor des gauches, parfois radicales, et économique, parce que Augusto Pinochet a entamé des grandes réformes libérales.
Ah oui, le Chili, on peut dire clairement aujourd'hui, a été un laboratoire du néolibéralisme au niveau même mondial, avant l'Angleterre de Thatcher ou de Reagan aux États-Unis, donc avec une néolibéralisation radicale, brutale de l'économie. et donc qui a fait naître un peu ce mythe hein, du Chili moderne, Chili jaguar de l'Amérique latine, mais qui en fait le Chili aussi le pays le plus inégalitaire de l'Amérique latine, avec des conditions de précarité extrêmement importantes.
Vous disiez qu'il y avait des procès en cours, il y a une démarche de lutte contre l'impunité réelle, ou est-ce que ça reste des épiphénomènes ou des procès emblématiques sans qu'on creuse trop dans le fond de la société ? Parce qu'une dictature, c'est tout un système, c'est des millions de gens.
Il y a une vérité officielle qui s'est installée, qui s'est installée et qui, elle, ne pousse pas vraiment à l'extension de la justice. Mais en même temps, il y a des mobilisations, certes minoritaires, mais importantes, pour mettre fin à l'impunité, que les responsables soient derrière les barreaux, et surtout pour récupérer aussi cette mémoire de ceux qui sont tombés sous les coups de la répression. Et depuis 2011, avec le retour de grands mouvements sociaux, les mouvements étudiants, il y a une génération là qui est là de jeunes qui ont perdu la peur, qui n'ont pas vécu la dictature et qui, eux, réclament la fin de l'héritage de Pinochet, du modèle Pinochet, qui fait que l'éducation, la santé, les transports, tout était privatisé ou livré au marché. Et donc, ces engagements contre l'héritage du modèle économique débordent aussi et font qu'il y a une demande plus grande aussi de justice pour ce qui s'est passé. Et les jeunes, en ce sens, sont vraiment très importants pour ce combat contre l'impunité.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Franck Godichaud, maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Grenoble, en France. Pour nous écrire, une seule adresse, toujours la même, français@dw.com. On se quitte sur quelques vers de Pablo Neruda tirés de son chant général. « J'ai chanté pour ceux-là qui n'avaient pas de voix et ma voix a frappé aux portes restées closes pour que par le combat entre la liberté. » Salut et à la semaine prochaine.
Pas besoin des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.